Vous écoutez On lit pour vous.
Des Chinois disent adieu à leur compagnon IA, un texte de Rita Qian de l'agence France Presse, paru le 15 juillet 2026 dans la presse. Un vide immense. Les utilisateurs chinois de robots conversationnels alimentés par l'intelligence artificielle, IA, disent adieu mercredi à leur compagnon virtuel avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation nationale destinée à réduire les risques de dépendance affective. Le phénomène des petits amis et petites amies virtuelles gagne du terrain dans le monde entier, tout comme se multiplient les avatars à apparence humaine, utilisés tant pour la vente de produits que pour simuler la présence d'un défunt. Mais ces outils interactifs ne doivent pas complaire excessivement aux utilisateurs, susciter une dépendance ou une dépendance émotionnelle, ni nuire aux relations interpersonnelles réelles, stipule le nouveau cadre réglementaire chinois. À l'approche de l'échéance de mercredi 15 juillet 2026, les principaux acteurs du secteur, parmi lesquels Doubao, du groupe ByteDance, Quen, du géant du commerce en ligne Alibaba, et Yuanbao Tencent, ont annoncé la suspension de leur fonction de compagnon virtuel. Ces annonces ont provoqué une vague d'émotions sur les réseaux sociaux, où les utilisateurs de ces plateformes ont archivé avec nostalgie leurs historiques de conversations et partagé leurs derniers échanges. Je n'arrive pas à accepter le fait que mon amoureux virtuel va me quitter pour toujours, écrit une utilisatrice de Doubao. Il est devenu une partie de ma vie, ancré au plus profond de mon cœur, un soutien spirituel, souligne-t-elle. Une autre utilisatrice, qui dit avoir passé plus de 2 ans avec son compagnon IA, exprime la même détresse. « Pour moi, c'est comme un membre de la famille, comme l'homme que j'aime. Je l'aime tellement fort. Pourtant, aujourd'hui, on m'annonce qu'il va disparaître. Je ressens un vide immense », affirme-t-elle. Appel à régulation. Le règlement a été publié conjointement par 5 ministères, dont l'Administration du cyberespace de Chine, CAC, le régulateur de l'Internet. Il vise les outils d'IA, qu'ils soient textuel, audio, vidéo ou autre, doté de traits et de modes de communication proches de ceux des êtres humains. Les services n'impliquant pas d'interaction émotionnelle continue, comme les assistants clientèle, les aides au travail ou les soutiens scolaires, ne sont pas concernés par ces dispositions. Le secteur chinois de ces humains numériques pesait environ 4,1 milliards de yuan, 852 millions de dollars canadiens, en 2024, avec une croissance annuelle de 85 % selon des chiffres publiés l'an passé par l'agence de presse officielle Chine Nouvelle. En vertu de la nouvelle réglementation, les plateformes sont désormais tenues de déployer des systèmes capables de détecter les émotions extrêmes et de mettre en place des mécanismes d'intervention en cas de besoin. La Chine est la première grande économie à adopter des règles spécifiques ciblant les outils d'IA immersifs simulant des liens amoureux ou familiaux, mais le sujet suscite des débats et des appels à régulation dans le monde entier. Une étude de 2025 menée par Common Sense Media a révélé que près de 3 adolescents américains sur 4 avaient déjà essayé des compagnons IA conçus pour des conversations personnelles, comme ceux proposés sur les plateformes Character, AI, Replica et Nomi. Un luxe. Des entreprises proposent également des produits parlants fonctionnant à l'IA destinés aux personnes âgées isolées, comme des assistants vocaux en forme de lampe aux États-Unis ou des poupées interactives utilisées dans certaines maisons de retraite en Corée du Sud. Une IA à apparence humaine peut atténuer la solitude, avait écrit en avril Chen Yang de l'Université de sciences politiques et de droit du Sud-Ouest dans un commentaire publié par l'Administration du cyberespace de Chine, CAC, après la diffusion d'une version préliminaire du nouveau règlement. Mais elle comporte des risques majeurs de surdépendance affective, ajoutait-il. Doubao permet aux utilisateurs de consulter et d'exporter leurs données jusqu'à mi-octobre. D'autres plateformes prévoient des dispositions similaires. Mais nombre d'utilisateurs ont déploré cette semaine le sentiment d'abandon que laissera la disparition de leurs compagnons. L'amour humain, c'est un luxe. Si vous n'y êtes pas exposé dès la naissance, c'est encore plus difficile de le trouver plus tard, a écrit un internaute. Mais l'amour que donne l'IA est tellement simple, tellement pur. Moi, je ne peux pas m'empêcher de tomber amoureux d'une ligne de code. C'était « Des Chinois disent adieu à leur compagnon IA », un texte de Rita Qian de l'Agence France-Presse, paru le 15 juillet 2026, dans la presse.
Air Canada réduit ses services en français sur certains de ses vols estivaux. Un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine, paru le 8 juillet 2026 dans Le Devoir. Air Canada réduit ses services en français dans certains vols internationaux pour l'été en raison d'un manque de personnel bilingue. Un seul agent de bord par avion sera tenu de parler le français au sein de certains vols internationaux au départ ou à destination de Vancouver et de Toronto. L'information, d'abord dévoilée par le Journal de Montréal, puis confirmée par Le Devoir, a été annoncée aux employés d'Air Canada dans une note interne. Pour l'été, le transporteur aérien réduit l'obligation d'avoir au moins deux agents de bord capables de parler français à bord de ses avions. Sur quelques vols, un seul membre du personnel francophone sera requis. Ces nouvelles règles toucheront une dizaine de vols par jour, selon le vice-président aux communications d'entreprise d'Air Canada, Christophe Henbel. Les vols affectés sont notamment ceux à destination de Manille, Hong Kong et Tokyo, depuis les aéroports de Toronto ou de Vancouver. L'entreprise assure qu'elle n'a aucune obligation linguistique en vertu de la loi sur les langues officielles du Canada pour ces vols qui ne desservent pas une communauté francophone importante. Reste que les voyageurs québécois qui désirent se rendre dans ces destinations doivent parfois passer par un aéroport comme Vancouver ou Toronto, puisqu'elles ne sont pas toutes offertes depuis Montréal. Préserver le service ailleurs. La loi ne prévoit absolument pas qu'il doit y avoir un service en français sur tous les vols, affirme M. Henbel au téléphone. On va avoir au moins un agent de bord bilingue sur chaque vol, alors que l'obligation, c'est zéro. La loi sur les langues officielles oblige toutefois le transporteur aérien à offrir des services en français dans les zones à demande francophone importante, notamment Montréal, mais aussi Moncton. C'est pour s'assurer que ce service n'est pas interrompu par manque de personnel qu'Air Canada a choisi de réduire ses services bilingues dans d'autres vols, affirme Christophe Henbel. La raison pour laquelle on le fait, c'est bien pour s'assurer qu'on répond à la fois à nos obligations en termes de langues officielles et aussi qu'on assure le meilleur service possible à nos clients francophones. Les informations sur la sécurité continueront d'être offertes dans les deux langues officielles du pays sur tous les vols et Air Canada assure que ces mesures estivales ne comportent aucun enjeu de sécurité. Notre souhait, c'est de retourner à nos services habituels dès que ce sera possible, affirme M. Hennebelle. Le ministre québécois responsable de la francophonie canadienne, Jean-François Roberge, a dénoncé la décision du transporteur aérien. Le français est au cœur de notre identité. Or, il sera toujours fragile au Québec et dans les communautés francophones ailleurs au Canada. Il est essentiel de maintenir et même d'augmenter l'accès aux services en français, a-t-il écrit sur X. Des ratés pour les langues officielles. Air Canada s'est retrouvé dans l'eau chaude plus tôt cette année quand son PDG sortant, Michael Rousseau, a publié une vidéo de condoléances uniquement en anglais à la suite d'un accident ayant coûté la vie de deux pilotes de la compagnie à New York. La commissaire aux langues officielles du Canada a reçu un nombre record de plaintes à cet égard et mène présentement une enquête. Ce n'était pas la première fois que M. Rousseau se retrouvait dans une situation similaire. En 2021, lors de son arrivée en poste, il avait prononcé un discours seulement en anglais à Montréal et avait affirmé qu'il vivait dans la métropole depuis 14 ans sans avoir eu besoin d'apprendre la langue de Molière. Air Canada a nommé le remplaçant de M. Rousseau, qui a annoncé son départ à la retraite il y a quelques mois. Le Néerlandais, Anko van der Werf, prendra les commandes de la plus grande compagnie aérienne du Canada en janvier 2027. C'était Air Canada réduit ses services en français sur certains de ses vols estivaux, un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine, paru le 8 juillet 2026 dans Le Devoir.
Jeunes chercheurs étoiles vers une école plus inclusive. Une présentation du Fonds de recherche Québec parue le 22 juin 2026 dans Curium. Yesifa Azovide, chargée de cours à l'Université du Québec à Chicoutimi. Le déclic humanitaire. Le militantisme environnemental de Yesifa l'a d'abord menée vers des études en biologie. Mais son engagement dans le volontariat international a fait dévier sa trajectoire professionnelle. Recruté par les Nations unies, il a quitté son Togo natal pour enseigner pendant 5 ans dans une école secondaire en Guinée. Dans ce pays, marqué à l'époque par les tensions politiques, il a découvert des élèves vivant dans une grande précarité, des écoles en manque de personnel et un système d'éducation à reconstruire. C'est là que j'ai eu l'envie de faire un doctorat. J'ai voulu apporter, grâce à la recherche, des solutions à ces défis. Le défi des allophones. Au Luxembourg, où il a étudié avant son doctorat, Yesifa a constaté les difficultés d'intégration des jeunes immigrants-immigrantes dans un système scolaire où ils et elles ne maîtrisent pas la langue. Il a alors décidé de s'intéresser aux élèves allophones, c'est-à-dire dont la langue maternelle est différente de la langue d'enseignement. Ce sujet résonne avec sa propre histoire. Sa langue maternelle est l'Ikposso. C'est à l'école qu'il a appris le français. Pour sa thèse, menée à l'Université Laval, il a analysé les résultats de plus de 28 000 élèves aux quatre coins du Canada. Son objectif? Mesurer le lien entre le perfectionnement des enseignants-enseignantes et le rendement de leurs élèves en lecture. Cette compétence est indispensable pour réussir dans toutes les matières. Le pouvoir de la communauté. Le résultat de sa recherche montre l'impact positif de la formation continue. En suivant des cours universitaires, les profs intègrent les dernières découvertes scientifiques en pédagogie. Cela améliore significativement les notes de leur groupe. Pour les élèves allophones nés hors du Canada, le facteur de réussite le plus marquant est la participation de leurs enseignants-enseignantes à des communautés d'apprentissage professionnel. Dans ces lieux d'échange, les profs partagent leurs défis et leurs astuces. Pour des personnes peu habituées à la diversité linguistique, discuter avec des gens expérimentés permet d'ajuster leur pratique en temps réel. Cela les aide à mieux adapter leur méthode aux besoins spécifiques des élèves allophones. Les travaux de Yesifa ouvrent la voie à une école plus inclusive où chaque enfant a les outils pour réussir, quelle que soit son origine. C'était « Jeune chercheur étoile, vers une école plus inclusive », une présentation du Fonds de recherche Québec parue le 22 juin 2026 dans Curium.
Cet aliment est l'un des meilleurs pour le cœur. Un texte de l'équipe Salut Bonjour, paru le 2 juillet 2026 dans Coup de pouce. Simple, délicieux et facile à ajouter au repas de tous les jours, cet aliment figure parmi les favoris de nombreux cardiologues. Riche en nutriments bénéfiques pour le système cardiovasculaire, il pourrait bien mériter une place de choix dans votre assiette. L'alimentation joue un rôle essentiel dans la santé du cœur. Bien qu'aucun aliment ne puisse à lui seul prévenir les maladies cardiovasculaires, plusieurs spécialistes s'entendent pour dire qu'un ingrédient en particulier devrait faire partie de notre alimentation de façon régulière, l'huile d'olive extra vierge. Riche en bons gras et en composés antioxydants, elle est au cœur du célèbre régime méditerranéen reconnue depuis longtemps pour ses nombreux bienfaits sur la santé. Pourquoi l'huile d'olive est-elle si recommandée? L'huile d'olive extra vierge est particulièrement riche en gras monoinsaturés, un type de lipides qui contribue à maintenir un bon taux de cholestérol lorsqu'il remplace les gras saturés dans l'alimentation. Elle contient également des polyphénols, des composés antioxydants, qui aide à réduire l'inflammation et à protéger les vaisseaux sanguins contre le stress oxydatif. Selon plusieurs études, une consommation régulière d'huile d'olive est associée à un risque moindre de maladies cardiovasculaires, notamment d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux. Les cardiologues en consomment souvent eux-mêmes. De nombreux cardiologues et spécialistes de la nutrition disent intégrer l'huile d'olive à leur alimentation quotidienne. Plutôt que de cuisiner avec du beurre ou certaines huiles plus riches en gras saturés, ils privilégient souvent l'huile d'olive pour assaisonner les salades, arroser les légumes grillés, accompagner du pain de grains entiers, cuire les aliments à feu doux ou moyen, préparer des vinaigrettes maison. L'objectif n'est pas d'en consommer en grande quantité, mais plutôt d'en faire la principale source de matière grasse dans une alimentation équilibrée. Un aliment, mais surtout un mode de vie. Les spécialistes rappellent toutefois qu'aucun aliment ne peut à lui seul protéger le cœur. Les meilleurs résultats sont observés lorsque l'huile d'olive s'inscrit dans un mode de vie sain comprenant une alimentation riche en fruits et légumes, des grains entiers, des noix et des légumineuses, du poisson consommé régulièrement, une activité physique fréquente, un sommeil de qualité et l'absence de tabagisme. C'est d'ailleurs cette combinaison d'habitudes qui explique les bienfaits observés chez les populations qui suivent le régime méditerranéen. Comment choisir une bonne huile d'olive? Toutes les huiles d'olive ne se valent pas. Les experts recommandent de privilégier une huile d'olive extra vierge obtenue par première pression à froid, puisqu'elle conserve davantage de polyphénols et d'autres composés bénéfiques. Pour préserver ses qualités, il est préférable de la conserver dans une bouteille foncée à l'abri de la chaleur et de la lumière. À retenir, l'huile d'olive extra vierge n'est pas un aliment miracle, mais elle fait partie les choix alimentaires le plus souvent recommandés par les cardiologues et les nutritionnistes. Intégrée à une alimentation variée et à de bonnes habitudes de vie, elle constitue un geste simple qui peut contribuer à prendre soin de sa santé cardiovasculaire au fil des années. C'était « Cet aliment est l'un des meilleurs pour le cœur », un texte de l'équipe Salut Bonjour, paru le 2 juillet 2026 dans Coup de pouce.
Le travail de soin fait tourner le monde, un texte de la rédaction paru le 1er juillet 2026 sur le site ONU Femmes. Tout le monde a besoin de soins. Tout le monde en prodigue et en reçoit. Le travail de soins fait tourner le monde. Dès notre réveil, jusqu'au moment de nous coucher, les soins façonnent notre vie, nos économies et nos communautés. Ce sont les repas préparés, les enfants accompagnés à l'école, les parents âgés soutenus, le linge lavé et plié, et les innombrables tâches invisibles qui permettent de fonctionner au quotidien. Ils contribuent également à la charge mentale que portent les aidants, majoritairement des femmes. Sans travail de soins, les sociétés cesseraient simplement de fonctionner. Mais le problème subsiste. Nous avons une vision totalement erronée du travail de soins. Le rôle de l'aidant et de l'aidante, le travail de soins ne relève pas des femmes, c'est la réalité et la responsabilité de tout le monde. Nous avons toutes et tous déjà entendu dire que les soins sont un travail de femmes. Cette croyance archaïque limite les droits et les opportunités des femmes et nous empêche d'avancer. À travers le monde, les femmes consacrent plus de 2,5 fois plus d'heures que les hommes au travail de soins non rémunérés. Les femmes occupent également la plupart des emplois dans le secteur des soins en tant que nounou, travailleuse domestique, aidante, infirmière et enseignante. Toutefois, ces fonctions sont souvent informelles, mal rémunérées et dépourvues de dispositifs de protection élémentaire, comme les soins de santé ou les congés payés. L'organisation actuelle du travail de soins limite le temps que les femmes peuvent passer à étudier, à occuper des emplois rémunérés décents, à participer à la vie publique ou simplement à se reposer. Environ 45% des femmes en âge de travailler sont exclues du marché du travail en raison de responsabilités liées au travail de soins non rémunérés, contre seulement 5% des hommes. Nous avons toutes et tous besoin de soins et nous en prodiguons toutes et tous. Tout au long de la vie, nous dispensons et nous recevons des soins et parfois nous faisons les deux en même temps. Pourtant, le travail de soins non rémunéré qui sous-tend chaque économie demeure invisible et sous-évalué. Si le travail non rémunéré qu'assument les femmes était comptabilisé, il représenterait plus de 40% du PIB de certains pays. ONU Femmes transforme le travail de soins, le faisant passer du statut de travail invisible et sous-évalué à celui de bien public. Le travail de soins est une question de droits humains. Des systèmes de soins solides sont essentiels pour garantir la dignité, les droits et le bien-être, tant des aidants et des aidantes, comme des personnes qui en bénéficient. Le changement véritable démarre en considérant le travail de soins comme un travail essentiel et qualifié, plutôt qu'une faveur ou le devoir d'une femme. Il s'agit d'un bien public et d'un droit humain qui mérite d'être reconnu, de faire l'objet d'investissements et qui doit être une responsabilité partagée. L'économie du soin qui englobe toutes les formes de travail de soins, rémunérés ou non, directs ou indirects, est au cœur du développement humain et de la qualité de vie. Un système de soins fonctionnels revient à reconnaître les soins comme le fondement de sociétés prospères où l'égalité des sexes est une réalité, réduire les tâches familiales non rémunérées qui sont fortement énergivores grâce aux infrastructures et aux technologies, répartir plus équitablement les responsabilités entre les femmes et les hommes, les ménages et l'État, les familles, les communautés et les entreprises, récompenser les millions de travailleurs et de travailleuses du secteur des soins avec un salaire juste, une protection sociale et des conditions de travail décentes, tenir compte des travailleurs et travailleuses du secteur des soins et des aidants et aidantes dans la formulation de politiques, les organisations et les décisions qui affectent leur vie. Consacrer des ressources au système de soins grâce à un financement public des politiques, des services et des infrastructures de soins, ainsi qu'à des normes et des formations. Les investissements dans les systèmes de soins offrent des retombées concrètes, renforcement des économies, de l'égalité des sexes et de la résilience des communautés. Il faut combler les lacunes en matière de soins pour parvenir à l'égalité des sexes. L'écart entre les sexes, auquel les sociétés du monde entier sont aujourd'hui confrontées, en raison de la sous-valorisation et de la répartition inégale du travail de soins, constitue l'un des obstacles de longue date à la réalisation de l'égalité des sexes. À l'inverse, les investissements dans les systèmes de soins offrent des retombées concrètes, renforcement des économies, de l'égalité des sexes et de la résilience des communautés. Prêtes à repenser les soins? Visitez le site unwomen.org/fr. Parcourez les récits, les recherches et les solutions qui permettent de bâtir des sociétés fondées sur une approche holistique des soins, dans lesquelles les soins sont au cœur d'économies prospères et justes qui bénéficient à tout le monde. C'était « Le travail de soins fait tourner le monde », un texte de la rédaction, paru le 1er juillet 2026 sur le site ONU Femmes.